Merci pour cette invitation. Il est déjà tard. Donc je vais essayer, en plus, c'est encore mes deux amis Jacques Capla et Philippe Barré qui doivent intervenir. Donc on va essayer de faire vite, juste pour vous dire que les chiffres, je vais vous présenter un certain nombre de choses, mais que tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. On va prochainement faire une grosse publication sur le scénario After. Enfin, elle est déjà prête, mais voilà, on n'est pas totalement finalisé. Donc ce qui est important, c'est de retenir l'essentiel. Un point, alors je vous ai glissé un petit quiz avec trois photos, comme ça, ça mettra un petit peu de piment pour vous tenir éveillé jusqu'à 18h. Dire que ce scénario, c'est vrai qu'il est porté par Solagro et nourri par tous les gens d'ici, par tous les agriculteurs qui ont déjà qui travaillent sur cette question-là, donc c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau et de Solagro uniquement. Un point dont on n'a pas trop parlé, c'est que nous, on pense que l'avenir de l'agriculture passe par notre alimentation. Et c'est notre alimentation qui dictera demain notre agriculture. Donc ça, c'est vraiment la base de notre scénario qui est basé sur la demande et non pas sur l'offre. Donc la demande alimentaire, qui a été aussi un peu abordée par Stéphane Le Foll ce matin et puis Olivier De Schutter qui parlait du système alimentaire. Voilà, qui est un enjeu majeur sur l'avenir des terres agricoles. On y reviendra. Voilà un petit peu les idées fortes. Alors, after 2050, bon, on avait déjà nous travaillé, on était fortement impliqué sur un scénario qui s'appelle Négawatt, qui est aussi un scénario énergétique à 2050, dans lequel on est fortement impliqué à Solagro. Et les gens nous ont dit, bah, pourquoi ne faites pas ça aussi sur l'agriculture, l'alimentation, quoi. Donc, on l'a fait. Voilà, on s'y est mis depuis 2 ans. Et on y a mis toute notre énergie, donc on n'est pas encore au bout. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais on va pouvoir vous donner ici les premiers résultats. After 2050, c'est aussi un rêve. C'est-à-dire que nous, on se demandait, Solagro, ça fait 30 ans que ça existe, 30 ans qu'on est sur le terrain, 30 ans qu'on travaille sur le biogaz. Il y a quand même plus d'installations. Il y avait plus d'installations en 1985 qu'il y en a aujourd'hui, donc on a l'impression que les choses n'avancent pas vite quand même. Donc on avait besoin aussi de se projeter assez loin pour voir si finalement notre scénario agroécologique d'une autre agriculture était possible pour nourrir les Français avec des produits de qualité. La réponse, je vous l'ai dit tout de suite, c'est oui, c'est possible. Alors après, comment on va y arriver? On a vu qu'en Bretagne, c'est encore plus compliqué, j'imaginais, parce que j'ai oublié qu'il fallait aussi des amontées, des milliers de mètres carrés de bâtiments, quoi. Voilà. Alors, ah oui, c'est moi qui passais le diapo. Alors, oui, donc Solagro, c'est juste une, ça fait partie des associations, des réseaux qui existent depuis longtemps. On est aujourd'hui 22 salariés, je peux vous dire qu'on embauche, parce qu'on a beaucoup de travail, et donc on travaille sur tout ce qui est énergie renouvelable et agroécologie, avec un terme clé qui est quand même la sobriété et la protection de nos ressources. Voilà, donc on est beaucoup d'ingénieurs, donc on essaye de faire en sorte que les choses se fassent sur le terrain. Alors, ça c'est la première partie de mon quiz. Cette diapo, déjà, pour montrer que c'est rassurant, parce qu'on a évité quand même le pire. Ça, c'est quand même le scénario qu'avait imaginé Ford en 1974 pour 2000. Bon, on est déjà en 2013, on n'en est pas encore tout à fait là. La question, c'est sur quel support et quelle était la cible de Ford sur cette photo. Alors, ceux qui gagnent viendront me voir à la fin et je leur donnerai un petit prix. Pas de réponse. Quelle était la cible? La cible. La ménagère. La femme de l'agriculteur, c'est un torchon. Voilà. Donc, c'est un torchon, puisque à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Donc, voilà. Donc, la femme devait certainement influencer beaucoup son mari. Et donc, l'agriculture, voilà ce qu'on avait en 1974. Heureusement, il y a même un petit bout d'avion en haut à gauche. On n'en est pas encore là, même si on s'en approche. Bon, les enjeux, je ne vais pas vous les rappeler, je pense qu'on les a assez développés. Finalement, le scénario after, c'est un scénario qui applique la feuille de route qu'ont décidé les ministres, l'État français, la Commission européenne, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050, d'avoir une eau de qualité préservée d'ici 2017 normalement. Plus de perte de biodiversité, bon ça on a loupé le coche de 2010, donc on l'a reporté en 2020. Enfin voilà, il y a une vraie feuille de route, 20% de bio en 2020, l'efficacité énergétique 20% en 2020, enfin voilà, il y a toute une feuille de route qui existe. Il y a on a parlé de la directive pesticides ce matin, normalement au 1er janvier 2014, c'est-à-dire d'ici quelques mois, toute la France devrait être en lutte intégrée. Alors, on se demande comment on va faire. Donc voilà, nous on s'est dit, on va appliquer la feuille de route, et on va la mettre en œuvre. Voilà. Alors, le point clé quand même de tout ça, c'est quand même la santé. Le gros risque qui nous menace, c'est entre autres l'obésité, qui est un très bon indicateur de notre système alimentaire. Alors, même si l'obésité croît en France, comme vous pouvez voir aussi bien à la population masculine que féminine, bon, j'ai pas les derniers chiffres, La France résiste quand même beaucoup mieux que la plupart des pays, et notre gros atout, c'est bien notre système alimentaire, hein, nos 3 repas par jour, très diversifiés. Voilà, ça c'est notre base, et conservons-le. Tant que les Français auront goût à manger, ils seront triés dans l'agriculture. Le jour où on perdra cette notion de goût, alors là, je pense qu'on sera un peu fichu. Alors les Américains, vous voyez la courbe bleue, eux, ils vont vers une catastrophe sanitaire. On parle de 40-45% d'obèses d'ici une dizaine d'années aux États-Unis. On voit que l'Angleterre, même s'il y a un petit fléchissement, en fait, ce qui résiste bien, c'est la France, l'Espagne, les systèmes méditerranéens résistent relativement bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a à la fois les gens qui n'arrivent pas à se nourrir dans le monde, et puis on a les gens qui se nourrissent trop. La consommation de viande, on y viendra, parce que c'est vrai que vous allez voir, c'est central. L'agriculture française est une vaste machine, une vaste ferme à produire de la viande et du lait. On l'a vu pour le cas de la Bretagne, mais c'est, on va dire, c'est, vous verrez là une diapo, c'est 84% de la surface agricole qui est destinée à la production de lait et de viande. Donc on voit bien que c'est central dans les solutions. Alors deuxième, celui-là est facile, qu'est-ce qui ne va pas dans cette diapositive? Ça est facile. Le cochon ne mange pas d'herbe. Vous avez raison. Enfin, il y en a quelques-uns qui mangent un petit peu d'herbe, mais globalement, le cochon... Mais là, vous voyez quand même qu'avec du cochon, on peut être supérieur, garantie, qualité, naturelle. Et derrière, on vous met une belle photo. Donc c'est vrai que là, quand vous avez tout ça dans le métro parisien, le consommateur moyen peut-être commence à douter de la production de cochon. Voilà. Donc, c'est vrai que... Faut quand même, on va avoir à lutter contre le greenwashing, ou en tout cas, je dirais, l'accaparement par les groupes agroalimentaires de l'image de l'agriculture qu'ils sont eux-mêmes en train de détruire. C'est-à-dire qu'ils vont s'autodétruire, parce que quand ils l'auront totalement détruite, eux, ils n'auront plus d'image pour vendre leur... Voilà, donc c'est pour ça que quand vous achetez un pack de lait, une plaquette de beurre, toutes les vaches pâturent sous des pommiers si possible. Elles mangent rarement du soja et rarement du maïs en silage. Voilà. Alors... Sur la production de qualité, j'ai eu un mal fou à faire ce schéma-là. On a beau avoir un super service statistique. En fait, je suis pas arrivé au bout. Pour savoir quelle était la production sous signe officiel de qualité, c'est-à-dire en IGP ou en AOC, puis en bio, j'ai réussi à vous sortir ça. Tout ça pour dire que si vous regardez, par exemple, la production de viande, la plupart de la production de viande n'est pas du tout sous signe officiel de qualité. C'est bien ce qu'a été dit tout à l'heure sur le poulet. Donc, on les importe ou on les produit pas. Il y a quelque chose qui se distingue. Bon, par exemple, le lait de brebis, grâce à Roquefort, l'Osso Irati, on a la majorité du lait de brebis aujourd'hui qui est sous AOC. Mais globalement, on voit qu'on dépasse rarement 10%. Et nous, on a bien l'intention que cette production de qualité, on l'augmente fortement. Et donc, il n'est pas question de réduire quoi que ce soit sur les produits de qualité, que ce soit la production fromagère. Mais la production fromagère au lait cru, par exemple, en AOC, ça ne fait que 10%. Donc c'est très faible. Le changement climatique, donc ce qui nous attend aussi, c'est quand même, surtout en période estivale, un très fort déficit en eau, une augmentation des températures qui va impacter fortement l'agriculture. On l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui par rapport au rendement. Cette diapo a plus ou moins déjà été montrée. Bon, vous voyez qu'il y a vraiment depuis 2000 une stabilisation des rendements, bon, qui est due peut-être à ces aspects climatiques, mais aussi à mon avis, c'est multifactoriel, mais c'est vrai qu'on voit très bien qu'on a une stabilisation des rendements qui, à mon avis, va perdurer, parce qu'on voit très bien que la pression sur les ressources naturelles est tellement forte qu'on ne peut aller que par une limitation de ces rendements. En règle générale, pour la plupart des cultures, comme pour le blé, le rendement est la quantité d'intrants, que ce soit pesticides ou azote, est totalement linéaire avec le rendement, quoi. Voilà. Alors, point important, ça c'est... C'est un peu nouveau, ça on l'a découvert, c'est qu'en fait, la production agricole a dépassé son pic de production en France dans les années 2000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une décroissance de la production agricole. Par un phénomène en ciseaux de 3 composantes, moins de terres agricoles, des rendements qui stagnent, et si on met ça par rapport à l'habitant, comme la population augmente, eh ben voilà, on a commencé à ce que la production agricole par habitant baisse. Production végétale, quoi, c'est-à-dire la production qui sort des champs, quoi. Voilà. Et vous avez ici, pour lier aux données sur la sécheresse et le changement climatique, vous avez les deux sécheresses de 76-2003. C'est pas compliqué, c'est un tiers de production agricole en moins sur ces deux années-là, quoi. Donc vous voyez l'impact que pourra avoir le changement climatique demain. Voilà. Donc il faut que les gens aient conscience en France qu'on est loin de nourrir le monde, puisque moi j'arrête pas de dire que c'est le monde qui nous nourrit, hein. On importe, la France est importateur net de 1,4 million d'hectares de terres agricoles par an, agricoles et forestières. Voilà, donc non seulement on est importateur net, mais en plus, la production agricole diminue, quoi. Donc voyez bien que si on ne change pas, on va aussi là-dedans vers un mur. Donc il y a le mur sanitaire, il y a le mur de l'emploi, il y a le mur de la production, voilà. Alors, l'urbanisation, on en a parlé tout à l'heure. Bon, j'ai fait la carte, moi, des zones, des terres agricoles qui étaient mangées par l'urbanisation. Donc, on voit qu'il y a tout le littoral, tout l'ouest de la France qui est concerné. Entendu, il y a une diagonale au milieu qui se vide plutôt. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que ça va pas être simple d'arrêter l'artificialisation des sols. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas seulement due à l'augmentation de la population. Elle est due au déplacement de la population en France. Les gens, à cause de raisons d'emploi, se déplacent dans la France. Donc, il faut à chaque fois les loger. Donc, il y a des villes qui se dépeuplent complètement. Vous allez dans les Vosges, là, on perd forcément beaucoup de population. Et après, je l'ai mis en rouge, c'est que le moteur de cette artificialisation, c'est la maison individuelle qui consomme 337 fois plus d'espace que l'habitat collectif. Et autre point, c'est que on l'a bien dit tout à l'heure, là, sur les prix des terres. Je veux dire, la plus-value aujourd'hui de l'urbanisation, enfin de vente de terrain à bâtir, c'est à peu près 5 milliards d'euros. Donc c'est presque, c'est la moitié des aides PAC, quoi. Donc quand vous avez tous les ans 5 milliards d'euros sur la table, vous comprenez bien que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce que ça change. Voilà. Et donc, tant que la loi n'aura pas cassé cette plus-value qui va dans les mains de quelques euro-propriétaires situés à proximité des villes, on n'arrêtera pas le phénomène. Vous aurez beau mettre toutes les lois que vous voulez, vous ne l'arrêterez pas. Voilà. Alors après, je reviens sur les animaux. Sur ce camembert, on voit très bien que la moitié des surfaces agricoles en France sont de l'herbe, donc vont aux ruminants, et qu'après, l'essentiel de nos céréales et les tourteaux, c'est-à-dire les sous-produits de la production d'huile, de colza ou de tournesol, va aux animaux. Donc en fait, les terres directement consommées en production végétale par l'homme ne représentent que 17%, quoi. Donc voilà, l'agriculture française, c'est une machine à produire du lait et de la viande. Voilà. Alors, le scénario, nous, c'était, on a fait un scénario aussi, on a voulu un scénario chiffré. On voulait savoir si finalement on allait être capable de réduire les gaz à effet de serre, si on était capable de nourrir la population, de réduire la pollution, etc. Donc on a chiffré notre scénario, on est parti du nombre d'habitants, de l'alimentation, et on a regardé si on pouvait nourrir cette population avec changement aussi des pratiques agricoles. Alors bon, on a été soutenu par la Fondation Charles-Léopold Meyer, que je remercie ici au passage. De toute façon, on voulait pas de soutien public à ce moment-là, parce que on voulait garder notre totale indépendance. Donc c'est un travail vraiment collaboratif qui va, vous verrez tout à l'heure, qui va s'élargir. Alors, le scénario pour l'instant, il est à l'échelle nationale. C'est un scénario France à 2050, enfin même si on a toutes les années jusqu'à 2050. Voilà, et qui reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, bon, je vais passer vite là-dessus. Donc, en fait, on part de la demande. Donc, on part du régime alimentaire. On part des besoins aussi en matériaux, biomasse, etc. Et après, on voit comment l'offre, donc l'agriculture, peut répondre à cette demande en mettant des contraintes sur cette agriculture, vous verrez ensuite. Alors, donc, on a des besoins, on a des hectares. Et puis après, avec les hectares, et les pratiques agricoles, on peut évaluer avec ensemble d'indicateurs comme les émissions de gaz à effet de serre, ou la quantité de pesticides utilisés, ou la quantité d'azote ou d'énergie. Donc la population, elle va vieillir, elle va augmenter. Donc la France est quand même un des rares pays européens qui va voir sa population augmenter. Donc ça, c'est une contrainte forte. Alors, l'alimentation. Donc un des points clés aujourd'hui, c'est que les Français surconsomment des protéines et surconsomment des protéines animales. Donc il y a deux facteurs, une surconsommation de protéines et une forte présence de protéines animales dans notre alimentation, 62%, voilà, qui sont représentés par le lait, vous voyez que ça en fait une grosse partie, les poissons, les œufs et puis la viande. On a aussi une très forte consommation de... Alors le calcium est un véritable enjeu, qui a été très bien, on va dire, verrouillé et bétonné par l'industrie laitière qui a été présentée ce matin, qui nous dit qu'il faut 900 mg par jour de calcium et puis... il en faudrait près de la moitié dans le lait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut au moins consommer 4 produits laitiers par jour, sinon vous allez avoir vos os qui vont se fondre, se tordre, enfin bon, voilà. Donc nous, on a beaucoup... Alors nous, on n'a pas de nutritionniste dans l'équipe, mais enfin on a été voir un peu les gens compétents, et notre scénario, c'est quand même de réduire cette augmentation en calcium, et puis surtout de diminuer la part qui viendrait du lait. Il y a quand même énormément de populations dans le monde qui vivent très bien sans consommer de lait. Voilà. Bon, un mot aussi sur le sucre. Donc voilà, surconsommation de sucre. Après, Stéphane Le Foll en a parlé aussi ce matin. Il y a bien un gaspillage important dans la filière alimentaire. On a estimé que là aussi, on pouvait faire des économies importantes. Sortie de ferme, on va y revenir. Alors, donc les hypothèses qu'on a dans notre scénario, c'est cela. Donc, l'idée, c'est de réduire la surconsommation de protéines, réduire la surconsommation de sucre, ramener l'indice de masse corporelle à suite 2000, parce que plus vous êtes gros, plus vous mangez. Voilà. Et moins vous êtes en bonne santé. Diviser par 2,5 les pertes évitables. Et puis surtout, consommer différemment les protéines. C'est-à-dire que, au lieu de consommer 2/3 de protéines animales et 1/3 de protéines végétales, on consommera 2/3 de protéines végétales et 1/3 de protéines animales. Alors, comme l'a dit Stéphane Le Foll aussi, nous, on va pas obliger les gens à plus manger de viande ou obliger à manger des lentilles. Je pense que là, l'idée, c'est bien de travailler sur l'aspect culinaire, l'aspect gustatif, pour que cette révolution, les gens la fassent volontairement, par envie, en ayant compris les enjeux qu'il y a derrière, quoi. Et puis, l'idée, c'est d'en consommer moins, mais de consommer des produits de qualité, quoi. Hein, mieux vaut manger un bon camembert un jour sur deux que deux mauvais camemberts. D'accord? Voilà. Alors, sur l'assiette, là, vous avez l'assiette en 2010-2050. Vous voyez quand même qu'on a fait des compromis. On n'a pas totalement fait disparaître les boissons alcooliques. Hein, le vin, c'est bon aussi. Le lait, il est divisé par deux. Une forte augmentation des fruits et légumes. Une augmentation aussi de la quantité de céréales. On est très embêté sur les poissons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a chance d'avoir une grande diversité de poissons quand vous avez une poissonnerie, même si beaucoup de gens ne mangent pas de poissons. En tout cas, vu les scénarios qu'on a sur les stocks de poissons, c'est pas trop. A priori, on n'est pas parti sur une quantité de poissons aussi importante. Ça veut dire qu'il faudra encore remplacer ces protéines animales par d'autres protéines, parce qu'on n'est pas capable de gérer le stock. Bon, là, vous l'avez en kilocalories. Bon, je vais passer vite, vous pourrez les retrouver. Et puis là, vous l'avez en protéines. Voilà, donc on voit bien qu'on switch entre les protéines végétales et les protéines animales, quoi. Donc c'est vrai que notre assiette aujourd'hui, c'est une assiette de protéines animales. On mange, c'est ça qui structure notre repas encore aujourd'hui en France, quoi. Alors, sur l'agroécologie. Donc, jusqu'à maintenant, on avait une parcelle agricole, ça produisait des grains et puis de la paille. Hein, la paille, maintenant, ça se vend cher hein, aux éleveurs. On avait oublié ce sous-produit. Bon, l'idée, c'est que demain, on en a parlé, des cultures intercalaires. Donc, on associera entre les cultures, à la fois dans le temps, je vais passer tout, dans le temps et dans l'espace, on va associer des plantes. Alors, il y aura donc des cultures intercalaires, des haies autour des champs, des cultures associées. J'aurais dû dire intermédiaire, là, une erreur de frappe. Donc, les intermédiaires, c'est jamais laisser le sol nu. Donc, après une culture de blé et avant, par exemple, une culture de tournesol, on met une autre culture. Les cultures associées, c'est on associe deux cultures sur la même parcelle, si possible une légumineuse, par exemple, févrole et blé dur, ou luzerne et blé dur, d'ailleurs. Et puis, on va aussi, on l'a vu ce matin avec Agrouf, planter des arbres aussi au milieu des parcelles. Voilà. Donc, on pourra avoir, pas forcément sur toutes les parcelles, mais l'avenir dans les cultures demain, c'est vraiment une agriculture diversifiée à l'échelle de la ferme et à l'échelle de la parcelle. Alors, l'objectif de notre scénario, c'est en fait de quitter cette agriculture industrielle, donc de passer à 50% agriculture biologique en 2050. Bon, on a déjà un objectif de 20% en 2020, donc il nous restera encore 30 ans pour arriver à 50%. On sait qu'il y a des territoires en France qui sont déjà à plus de 20%, qui visent déjà l'atteinte de 50% en 2020. L'Autriche à 20%. Tout ce scénario est totalement acceptable. Et le reste, de toute façon, on ne peut pas accepter une agriculture qui détruit l'environnement et qui détruit même le tissu social. Donc, on sera dans une agriculture. On n'a pas pris 100% agriculture biologique parce que il y a une agriculture de transition, on va dire, qui va utiliser toutes les techniques de l'agroécologie. Qu'on a mis ici production intégrée, agriculture de conservation, etc., qui va se développer en parallèle. Alors l'un peut être un tremplin vers l'autre, enfin bon, voilà. Donc, on implantera 10% d'agroforesterie, il y a beaucoup de travail pour ceux qui travaillent sur l'agroforesterie, hein, 10% de, de 29 millions d'hectares, ça fait quand même 3 millions d'hectares implantés. Des cultures associées sur 20%, et puis on va aussi replanter des haies autour des parcelles. Donc il y a un vaste chantier de réaménagement des parcelles. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin. Donc une parcelle de blé, alors là, c'est la moyenne de la parcelle France, on va dire, mais ça sera pas, chaque parcelle sera pas tout à fait pareil, quoi. On voit que le rendement du blé tendre dans un hectare va baisser. Mais en 2050, il n'y aura pas que du blé dans la parcelle. Donc il y aura à la fois des cultures associées qui vont produire 0,4 tonnes, là vous voyez, des cultures intermédiaires qui vont produire 1,28 tonnes, l'agroforesterie du bois autour des haies, etc. Donc au final, on va produire plus sur la parcelle, c'est ce qui est donné par le coefficient de rendement équivalent, là le CRE, qui a été expliqué ce matin aussi. Donc d'un coefficient de 1, on va passer à 1,14. Enfin, c'était ce qu'il y a dans la vidéo de Christian Duprat. Voilà, qui montre qu'en associant les cultures, on produit plus qu'en les cultivant séparément. Donc là, il parlait d'un coefficient de 40%. Bon, là, nous, on est à un coefficient que de 1,2. Mais déjà, gagner 20%, c'est énorme. Et puis, parallèlement, on va donc réduire fortement le nombre de pesticides, puisqu'on passe sur un blé aujourd'hui. Il y a 6 traitements sur le blé. Je ne parle pas du traitement post-récolte. On va passer à 1. Donc, on a quand même, vous voyez, de 6 à 1, ça fait quand même une sacrée réduction d'usage des pesticides. On va aussi atteindre les 5% de surface d'infrastructure agroécologique sur la parcelle. Donc, on répond, ce scénario répond totalement aux engagements environnementaux. Alors, le problème, donc, les animaux. On a parlé de la Bretagne. Donc, les granivores, aujourd'hui, les granivores ont fait des poulets en 40 jours, tu parlais, avec qui vont faire un poids à la vente de 1,9 kg. Il leur faut 2 kg de concentré, voilà, donc 2,3 tonnes de matière sèche par tonne de poids vide. Donc c'est vrai que ces poulets-là sont assez efficaces pour transformer des céréales en viande. Et donc c'est vrai que si on veut faire de la qualité, ça va se payer aussi, quoi. C'est-à-dire des poulets à 95 jours, il leur faut plus de concentré par tonne de poids vif produit. Alors c'est là qu'il va falloir qu'on travaille avec les spécialistes pour voir, mais comme c'est des granivores quand même, il faudra bien y nourrir avec des grains, et si on veut de la qualité, en général, il faut quand même plus de grains pour arriver à cette viande de qualité. Et c'est pareil pour le porc. Le porc, on fait des porcs à 130 jours, qui consomment 3 tonnes de matière sèche par tonne de poids vif. Et si on fait des porcs plus de plein air, et bien, plus allongés, c'est-à-dire que des porcs à 365 jours, et bien, il en faudra le double. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Une agriculture de qualité, ça a aussi des conséquences en termes de... Alors dans notre scénario, comme on ne sait pas trop comment encore s'y prendre, pour l'instant on est parti sur, on maintient 50% de standards et 50% de labels rouges ou de bio, c'est-à-dire qui sont sur d'autres standards. Donc en gros le standard de droite et puis le standard de gauche. Voilà. Alors, je vais accélérer. Alors sur les herbivores, on a oublié que les herbivores consommaient quand même beaucoup de concentré. Vendredi, j'étais encore chez les éleveurs de moutons dans le Lot. Ils sont quand même à 3,5 kg de concentré, pourtant qui est efficient, techniquement très bon, par kilo de viande d'agneau vendu. Ça veut dire que ça fait 7 kg de céréales et de soja par kilo carcasse. Donc pour des moutons, vous voyez, on se dit les moutons c'est herbivores. Eh ben non, seuls les moutons néo-zélandais sont herbivores stricts. Voilà. Et pareil pour le lait, on est en moyenne à 200 grammes de céréales dans un litre de lait. Voilà, donc l'objectif, nous, c'est de tomber à 85 grammes par litre de lait. Voilà, donc là, il y a un véritable enjeu, un scénario d'avoir des ruminants qui produisent de la viande et du lait à partir de l'herbe et non pas à partir de cultures, de céréales ou de soja. Et donc, on en aura moins. Alors, conclusion du scénario, ça marche. Ça marche, puisqu'au bout du compte, on a même 4,5 millions d'hectares en trop. Alors les gens vont nous dire, putain, on va pouvoir urbaniser alors 4 millions. Non. Alors l'idée sur ces 4,5 millions, c'est un peu ce qu'on met en débat. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors on peut, j'ai pas trop parlé du flux import-export, parce que la France continuera à importer et continuera à exporter, parce que le café, on va pas le produire, par exemple. Donc on peut aussi dire, on va exporter plus, on va exporter un peu plus de céréales. Il y a aussi des terres pour des usages non alimentaires. l'énergie, les matériaux, l'isolation, etc. Donc c'est un petit peu ça qu'on met en discussion, sachant que sur ces 4,5 millions d'hectares, 3,7 c'est de l'herbe. C'est-à-dire qu'on a moins de ruminants, on a aussi de l'herbe qui nous reste en débat. Alors on peut aussi récolter l'herbe et faire du biogaz. Voilà, on a donc là c'est un sujet qui est actuellement en discussion. Voilà un petit peu les chiffres. Donc vous voyez par exemple sur les bovins, ben, on avait 9, actuellement on a 8 millions de vaches. Il nous en restera 2,6 et on passera sur des races mixtes, c'est-à-dire des races qui font à la fois du lait et de la viande de qualité. Parce que sinon, si on continue à faire du lait avec de la Holstein, on va se retrouver avec une viande qui n'a pas du tout la qualité qu'on a dans d'autres races. Donc c'est repartir sur des races mixtes telles qu'on les avait avant. Donc là, il y a un gros travail au niveau de la recherche. Bon, vous avez aussi l'évolution de toutes les productions. On voit aussi que les sols artificialisés, donc actuellement, on est à 5 millions d'hectares artificialisés. Bon, dans notre scénario, on économise au final que 500 000 hectares. Donc on va en perdre 1,9 million d'hectares. Donc peut-être qu'on peut espérer en perdre moins si les politiques sont plus efficaces. Mais je suis pas sûr encore qu'on est capable d'y arriver. Voilà, j'ai presque terminé. Donc, conclusion aussi sur les gaz à effet de serre. Conclusion du scénario, on n'arrive pas au facteur 4. On est à un facteur 2, c'est-à-dire que là, dans un tel scénario, on réduit les émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 2. 4, alors là, je dirais que pour l'instant, on ne sait pas faire. Quoi. Donc, ça veut dire que les autres secteurs de l'économie, les transports, l'habitat, vont devoir réduire d'un facteur de plus de 4. Ça, c'est possible. Le scénario négawatt montre que c'est possible. Donc, voilà, ça, c'est important à dire aussi, c'est que on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Ce scénario montre qu'on peut diviser par 2, mais pas par 4. Un petit mot sur l'énergie, ça c'est pour... On est content que Stéphane Le Foll a annoncé un plan sur le biogaz, parce que nous, dans le scénario, le biogaz, c'est important. Ça va représenter une part très importante des énergies issues de la biomasse, à côté du bois. Donc on prévoit un très fort développement de la production de biogaz, à la fois des éjections d'élevage, à la fois on peut méthaniser les cultures intercalaires, si elles ne sont pas données à des animaux, etc. On prévoit aussi un développement du bois, qu'il soit en forêt ou hors forêt. Bon, je passe vite là-dessus, donc le biogaz, j'en ai parlé. Alors, pour terminer, donc on en est là aujourd'hui, donc on a mis en place un scénario qu'on a fait boucler, qui tient la route, qu'on va continuer à améliorer. La phase 2013-2014, c'est une phase de régionalisation. Donc on va travailler dans 4 régions à la demande des conseils régionaux, donc Île-de-France, Centre, Picardie, Rhône-Alpes, donc ça va démarrer d'ici peu, pour voir comment ce scénario national, comment on le transcrit dans les régions. Alors ça va être un exercice plus difficile. Parce que quand vous dites on réduit la production laitière, on va la réduire où? En Bretagne, en Franche-Comté, en Rhône-Alpes? Est-ce qu'on va réduire de la même façon? Est-ce qu'on privilégie les produits de qualité? Est-ce qu'on privilégie les zones qui sont qui finalement produisent pas assez de lait? Ça veut dire que la Bretagne... va être fortement impacté, mais tout va être impacté. Le Limousin, avec son modèle de vache limousine, va être impacté aussi, quoi. Donc, en fait, toutes les régions vont devoir réfléchir sur leur orientation. On verra après comment on peut généraliser ça dans toutes les régions. Et puis, après, ça veut dire quelle transition j'initie, pas seulement agricole, énergétique, mais aussi alimentaire et culinaire. Ça, c'est fondamental, quoi. Et c'est vrai que je pense que ces aspects-là sont absents des stratégies actuelles. Et c'est vrai que le mot alimentaire manque dans la nomination du ministère, parce que je pense que la vraie révolution, elle est là, et l'agriculture suivra. Alors, dernière partie de mon quiz. Alors, celle-là est un peu compliquée. Vous avez une chance sur 36 000. Quelle est la commune qui possède un si beau paysage de cerisiers de plein vent? Versailles, non. Fougères, non. T'es pas loin, toi, mais t'as pas assez bien pris ta leçon. Avranches, non. Il y a un produit. Qu'est-ce qu'on fait avec de la cerise? Du kirsch. Quelle est la commune qui produit un kirsch à Haussé? Il n'y en a qu'une. Ah, vous ne savez pas vos leçons, là. Allez-vous, j'en approche. Fougerolles. Qui a dit Fougerolles? Madame, elle a gagné. Merci.
Alors, merci beaucoup.